l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. L'affaire Skripal n'en finit pas de tendre les relations entre Britanniques et Russes. L'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille ont été victimes d'une tentative de meurtre à l'arme chimique à Salisbury. Et depuis, Londres accuse le Kremlin d'être derrière cet empoisonnement. Dernièrement, c'est l'Ofcom, le régulateur local des médias, qui a lancé une enquête sur RT, la chaîne russe accusée de partialité sur ce dossier. Dans ce climat, l'argent des Russes est-il toujours le bienvenu? Longtemps, les oligarques ont été accueillis à bras ouverts dans la capitale britannique. Ils possèdent d'ailleurs des résidences luxueuses et peu importe l'origine de l'argent. Depuis bientôt 2 ans, justement, des militants anticorruption s'élèvent contre cette politique. À travers une visite guidée un peu spéciale, le Kleptocracy Tour, ils montrent comment Londres est devenue un paradis pour politiciens corrompus voulant réinvestir leur argent sale. Marie Billon est montée à bord de leur bus.
Rendez-vous a été donné au bord de la Tamise, dans les jardins de Whitehall. C'est ici que le gros bus gris du tour de la kleptocratie attend plusieurs dizaines de journalistes du monde entier. Le groupe de pression anticorruption Clamp Key organise une visite touristique qui a pour but de critiquer plutôt que d'admirer. Ce sont les villas et luxueux appartements détenus par les oligarques russes qui font l'objet de ce tour en bus de plus de 2 heures.
Good afternoon, ladies and gentlemen. And welcome to the Kleptocracy Tour of Russia.
Le maître de cérémonie est Roman Borisovitch, fondateur de Clamp Key. Cet ancien banquier vit à Londres depuis 1997. Il commence par définir l'oligarque russe en 3 étapes.
Ces gens-là ne sont pas des self-made men. Leur richesse provient de transactions avec le gouvernement russe. Alors soit ils ont vendu quelque chose de très cher à l'État russe, ou ils lui ont acheté quelque chose pour 3 sous. Certains ont même réussi à faire les deux, acheter à pas cher et revendre à prix d'or. D'autres sont juste des responsables gouvernementaux qui se sont immensément enrichis au cours de leurs fonctions. Ensuite, en faisant fortune, ils ont tous enfreint la loi au regard des normes criminelles, professionnelles et éthiques du Royaume-Uni. Mais puisque la Russie protège ses kleptocrates, ils n'ont pas été inquiétés. Enfin, ils achètent des propriétés, mais ne vivent pas ici.
Le bus démarre. Roman passe le micro à Rachel Davis de l'ONG Transparency International.
Hello everyone, my name is Rachel.
Transparency International estime qu'au moins 5 milliards d'euros d'argent sale sont actuellement investis à Londres. 1/5 de cette somme proviendrait d'oligarques russes. Alors pourquoi la capitale britannique attire-t-elle autant l'argent sale?
Bien sûr, Londres est une plaque tournante de la finance mondiale. Nous avons des liens étroits avec les îles Vierges britanniques ou les îles Caïmans. Et surtout, nous proposons une série de services à disposition. Des experts en communication qui blanchiront la réputation de ces oligarques. Des agents immobiliers, des avocats, des comptables qui, peut-être sans le savoir, les aident à dépenser leur argent sale en autorisant des transactions illégales.
Autre coup de pouce donné à ces oligarques, selon Rachel, la loi britannique autorise une entreprise à acheter un bien immobilier sous couvert d'anonymat. Personne ne cherchera à découvrir qui se cache derrière ces sociétés écrans. Nous arrivons sur Eaton Square, aussi appelé Red Square, en raison du nombre de Russes qui détiennent des propriétés ici, dans ce quartier ultra-chic de l'ouest de Londres. Une rangée de maisons blanches aux colonnes à la grecque entoure un immense jardin privé. La présence d'oligarques ici est un secret de polichinelle, et selon Rachel, le gouvernement a même participé à leur arrivée à Londres.
De 2008 à 2015, le gouvernement proposait un visa investisseur sous certaines conditions. Si vous aviez 2 millions de livres à dépenser, vous pouviez demander à résider temporairement au Royaume-Uni et obtenir la résidence permanente au bout de 5 ans. Mais il y avait très peu de vérifications faites concernant l'origine de l'argent ou les individus eux-mêmes.
Environ 3000 personnes, dont 23% de Russes et au minimum 3,5 milliards d'euros, sont arrivées au Royaume-Uni avec ce visa de 2008 à 2015, ajoute Rachel. Mais il y a 3 ans, la procédure de délivrance du visa a été réformée et des vérifications imposées. Depuis, précise Rachel, le nombre de dossiers de candidature a chuté.
In the next part of our tour, which will be a walking part,
C'est Roman qui reprend le micro quand on arrive près des jardins et du palais de Kensington. L'espace vert s'étend sur deux boroughs, l'équivalent des arrondissements, celui de Westminster et celui de Kensington et Chelsea. Dans le premier, 9,3% des propriétés sont détenues par des sociétés offshore. Le chiffre est de 7,3% pour le second, selon Transparency International. Le circuit touche à sa fin. En guise de conclusion, Vladimir Achourkov, le chef de l'opposition en exil, insiste sur le laxisme des autorités britanniques.
La législation qui permet de poursuivre cet argent sale existe déjà. Il y a la loi anticorruption ou celle contre le blanchiment ou plus récemment l'ordonnance concernant les richesses non expliquées. Il ne manque que la volonté de les appliquer.
La tentative de meurtre de Salisbury a changé les choses, estiment les militants. De nombreux députés veulent ainsi introduire des sanctions contre les oligarques. Le gouvernement a dit qu'il y réfléchissait sérieusement.
C'est la sensation littéraire du moment au Danemark. On la compare carrément à l'écrivaine danoise Karen Blixen ou au romancier afghan Khaled Hosseini. Dans Dodevaskeren, la laveuse de mort, largement autobiographique, Sarah Omar, une jeune auteure de 31 ans, originaire du Kurdistan irakien, dénonce la culture de l'honneur dans son pays d'origine, mais aussi dans le sien aujourd'hui, le Danemark. Anne-Françoise Hiver est allée à sa rencontre. Sarah Omar qui revient d'abord sur la fonction sociale des laveuses de mort.
Les dead washers existent, elles existent dans l'ombre, elles sont les parias de la société. Elles s'occupent du corps des femmes qui ont été déshonorées, tuées au nom de la religion, de la culture ou autre chose. Ce sont de vraies combattantes, car elles touchent à quelque chose qui est considéré comme impur aux yeux de la société. Elles se battent contre cette société.
Et si elles n'étaient pas là, qu'arriverait-il aux dépouilles de ces femmes?
Elles seraient juste jetées dans la rue, personne ne s'en occuperait. Au moment où je vous parle, dans la ville que je décris dans le livre, il y a une morgue où reposent 70 corps de femmes dont personne ne veut s'occuper. Les familles menacent la société et disent « Vous ne les touchez pas ». Si les laveuses de mort n'existaient pas, les cadavres resteraient là, pourrir. Au moment même où ces dead washers s'en occupent, elles les acceptent en tant qu'êtres humains.
Ce livre, c'est votre histoire ?
Les problèmes que je décris me dépassent, mais je peux vous dire que je suis une enfant de la guerre. Je suis une enfant de l'oppression et j'ai vécu dans un pays où les femmes dans certaines parties de la société n'ont pas de droits. C'est la religion qui commande. C'est comme un texte de loi sur lequel la société est construite. Par des écrits saints rédigés il y a 1400 ans, on légitimise l'oppression et les violences contre les femmes et on en utilise tous les éléments possibles comme des armes contre les femmes. Vous n'avez rien à dire, car vous êtes une femme, une honte pour votre famille dont vous portez l'honneur entre vos jambes.
Vous êtes une femme, vous êtes ashamed to your family. You are carrying your whole family's honor between.
Vous êtes née dans une famille musulmane, l'êtes-vous toujours ?
Je suis musulmane et agnostique, je me pose des questions et je m'accroche au meilleur de la religion car je sais que ça existe et que beaucoup de gens vivent en s'en inspirant.
Vous vous opposez au port du voile ?
Who made up that scarf ? It is the patriarchy. The scarf is made up by men. And why should a woman?
Qui a inventé ce foulard? C'est le patriarcat. Le foulard a été inventé par les hommes. Pourquoi une femme devrait-elle se couvrir? Est-ce qu'elle le fait avec ses amies femmes? Non, elle n'en a pas besoin. Elle le fait seulement en présence des hommes. Pourquoi ne pas inverser la façon de penser? Dites aux hommes de contrôler leurs désirs. Dites aux hommes qu'ils ne sont pas les seuls êtres humains dans ce monde, que les femmes sont aussi des êtres humains. Et dites aux hommes qu'elles ont les mêmes droits qu'eux, peu importe leur choix.
Vous appelez à une réforme de l'islam. Sur les réseaux sociaux, des femmes dénoncent des agressions sexuelles dont elles ont été victimes lors du pèlerinage à la Mecque. En Iran, des femmes enlèvent leur foulard. Quelque chose est-il en train de se passer ?
I am so proud of those women. They are speaking up. They are breaking the silence.
Je suis tellement fière de ces femmes. Elles brisent le silence, c'est le genre de mouvement dont nous avons besoin. Il faut que toutes les femmes et tous les hommes soutiennent ce combat. Parce que ce n'est pas seulement le combat de celles qui portent le voile, c'est aussi le mien. Je me bats pour les prochaines générations. C'est pourquoi je dis tout le temps, casser le silence. C'est aussi ce que dit Firmesk. Parle, tu es importante. Peu importe ce que les gens te disent, tu es importante.
Vous êtes menacée, vous faites l'objet d'une protection particulière de la police. N'avez-vous pas peur ?
I am standing in the middle of the battlefield. I am the one who gets the scars, but I also know.
Je suis au milieu du champ de bataille, c'est moi qui prends les coups, mais je sais aussi que je trace le chemin. Les femmes pour qui je me bats peuvent s'y engouffrer. Ça me donne de l'espoir et du courage. Je suis la voix de celles qui n'en ont pas, c'est ce qu'elles me disent. Mais ce n'est pas vrai, elles ont aussi une voix. Il faut juste qu'elles en prennent conscience.
Dans mon mind, elles ne sont pas voiceless. Elles ont la voix en elles.
Sarah Omar au micro d'Anne-Françoise Hiver. Son livre d'Ode Vaskeren, La laveuse de mort, est aujourd'hui un best-seller au Danemark. Fini les bons gueuletons à l'œil payés par le Parlement irlandais. Désormais, les élus qui avaient leurs habitudes dans les bars et restaurants de l'établissement devront payer la note. L'addition devenait vraiment trop salée au goût des autorités qui constataient des oublis regrettables. Résultat, à partir d'aujourd'hui, la maison ne fait plus crédit, Julien Lagache.
Plus question de laisser courir les impayés à Leinster House où les frais de bouche des députés et des sénateurs ont laissé une belle ardoise. L'été dernier, l'Iroartas, le Parlement irlandais, avait dit qu'il renonçait à recouvrer 5500 euros laissés en souffrance pour des additions remontant parfois aux années 2000. En ce mois d'août 2017, la presse s'était alors intéressée aux dépenses des élus sur leur lieu de travail et avait découvert qu'à ce moment de l'année, les quatre établissements de restauration attendaient le remboursement de 31 000 euros de crédit accordé depuis plus de deux mois, un montant qui correspond à près de 10% de leur chiffre d'affaires annuel et qui rend donc compliqué la comptabilité. Certaines notes individuelles avoisinaient même les 1500 euros alors que sur la période estivale, le Parlement n'avait siégé que 8 jours. Or, difficile parfois pour l'institution de recouvrer les sommes dues, notamment quand les élus ne sont pas reconduits dans leurs fonctions ou comme c'est le cas de deux parlementaires quand ils sont décédés depuis. Une situation devenue cependant inadmissible pour quelques députés qui ont appelé à un changement des règles au nom de l'exemplarité des élus. Fini donc l'ancien système basé sur la confiance. Désormais, les parlementaires devront, en début de mandat, autoriser les pouvoirs publics à prélever sur leur salaire les sommes considérées comme impayées au bout de deux mois, sous peine de renoncer à se voir servir à crédit. Car les établissements de restauration du Parlement sont très courus, entre autres pour des raisons pratiques, surtout quand les séances s'éternisent, comme ce fut le cas le 10 mars 2016, lorsque le débat sur la nomination du Premier ministre après les dernières élections a généré jusqu'à 11 000 euros de recettes, notamment en pinte de Guinness, la boisson la plus populaire au Parlement.
Le vivre ensemble, un véritable défi aujourd'hui dans une France sous tension sociale et communautaire. L'association Parlemonde a donc inventé un concept original. Des élèves d'école primaire échangent des vidéos sur leur vie, leurs jeux, leur ville, avec des classes d'enfants du même âge, du monde entier. Et pour réaliser ces échanges, deux adultes sillonnent des pays des cinq continents. Le reportage de Christine Siebert nous amène dans une école à Vernon, en Normandie, dans l'ouest de la France.
Moi, je me suis plus intéressée au Vietnam parce que j'aime bien les pays paradisiaques. Là, les grandes plages blanches, tout ça. Ah, j'adore ça.
Les enfants de l'école Château-Saint-Lazare n'ont pas besoin de prendre l'avion pour trouver un bout de paradis ou pour découvrir d'autres manières de vivre et de jouer.
Je ne savais pas qu'au Vietnam, il y avait la moussan.
Moi, qu'est-ce qui m'a plu dans le Mexique, c'est quand ils ont montré le guacamole.
Et aussi, d'accord. Qu'est-ce qui m'a choqué, c'est en fait les jeux. Les jeux, c'est pas pareil, en fait.
Tout cela, ils le savent grâce aux vidéos que les enfants au Vietnam, au Maroc ou encore au Mexique ont tournées pour leur montrer leur quotidien. Mais les élèves de Vernon ont aussi appris des choses en tournant eux-mêmes des vidéos sur leur spécialité culinaire, leur ville, leurs monuments.
Je savais pas qu'il y avait une rue qui s'appelait la rue Potard, par exemple. En fait, c'est une rue qui date du Moyen-Âge. C'est pour ça que les maisons, elles sont faites de bois et un peu vieilles.
On a fait les spécialités du Nord Pas-de-Calais, la tarte au maroilles.
C'est quoi ça, maroilles?
C'est du fromage très fort que dans le Nord Pas-de-Calais ils en font. J'ai jamais goûté, donc je ne sais pas.
C'est trop bien.
Ces vidéos sur Vernon et la région ont fait beaucoup d'effets dans les salles de classe lointaines, racontent Julie Caillot et Guillaume Bordet, les médiateurs voyageurs de l'association Par le Monde, qui reviennent tout juste du Mexique.
Et vous avez fait sur la tarte au
maroilles. Et ben ça, les enfants mexicains, on leur a montré. Et ils étaient très surpris parce qu'ils ont quasiment... Il y a très peu de fromage au Mexique. Ah ouais, moi j'aime beaucoup aussi.
Grâce aux vidéos des uns et des autres, s'installe ainsi un dialogue entre les élèves des quatre coins du monde et ceux de France. Laurent Arnoux est l'un des fondateurs de l'association.
L'idée, c'est qu'il y a un jeu de questionnement qui se met en place pendant toute une année. Et en se questionnant sur leurs similarités et leurs différences, ils apprennent à mieux se connaître et puis à plutôt s'interroger plutôt que se moquer ou être dans l'ignorance par rapport aux différences.
16 000 élèves en France et à travers le monde ont pour l'instant participé à l'initiative que les fondateurs de l'association Par le Monde ont lancée en 2013. Et les échanges continuent de plus belle, entre autres grâce au soutien de nombreuses fondations. Aucun sujet n'est tabou, ce sont les enfants qui mènent le jeu en posant toutes les questions qui leur passent par la tête à leurs petits partenaires. Et si ces questions peuvent toucher des sujets philosophiques ou religieux, elles concernent le plus souvent les aspects de la vie quotidienne. Les jeux, ce que les enfants des pays lointains mangent pour le goûter ou le petit déjeuner, et bien sûr le fonctionnement de l'école. Savoir comment ça se passe ailleurs inspire parfois les élèves français à s'impliquer plus dans la vie scolaire. Laurent Arnoux.
Pour beaucoup d'enfants français, ça a été des surprises de se rendre compte que, par exemple, les responsabilités qui sont délivrées aux élèves dans certains pays sont largement supérieures à ce qu'eux-mêmes font. Les enfants sont, par exemple, en charge de la propreté de leur classe. Mais vraiment, pas simplement de façon symbolique. Il n'y a pas de personne en charge de nettoyer la classe. Ce sont les élèves et ça fait partie de leur quotidien. Ce qui semble complètement surprenant pour des élèves français. Et ça, c'est typiquement quelque chose où on sait que dans certaines classes, ils ont proposé de mettre en place des nouvelles responsabilités, où ce sera eux qui seraient en charge du tri, où ce serait eux qui seraient en charge de vider la poubelle, ou en tout cas de simplifier le travail des personnes. Et ça leur a permis aussi de se rendre compte que la classe ne se nettoyait pas toute seule, en fait.
S'inspirer d'autres cultures et habitudes, s'ouvrir aux autres, et au sein même des élèves de Vernon, il y a une grande richesse culturelle qu'il s'agit de mettre en valeur.
Il y en a qui parlent plusieurs langues dans la classe?
Je parle français, portugais, espagnol. Guinée-Bissau et créole.
Je peux dire en turc quelque chose. Mais là-bas, ça veut dire bonjour.
On va écouter quatre versions différentes.
Julie et Guillaume ont préparé un jeu qui est justement en rapport avec les langues. Les élèves écoutent des extraits de dialogue et se mettent en groupe pour deviner dans quelle langue les gens parlent.
Il y a beaucoup de H en Allemagne, ils prononcent beaucoup les H. Ils roulent les R aussi.
Ok, c'est des bons. Vous avez reconnu des mots?
J'avoue, moi j'ai morche et dolphin.
Morche et dolphin? Tu sais ce que ça veut dire, morche?
Il s'avère qu'il s'agit du breton, du corse, de l'alsacien ou encore du créole de Guadeloupe. Ce sont des langues régionales de France, histoire de se rendre compte de la diversité culturelle à l'intérieur même du pays.
Voilà, on va vous laisser. Il y a l'exposition en bas. On peut aller.
Faire un tour.
La visite des voyageurs se termine. Les adieux se font dans le préau où ils ont monté une exposition avec des photos des enfants vietnamiens, mexicains et marocains, grandeur nature.
Un autographe.
Un autographe, tiens.
Elle fait et partie de la radio française internationale.
Exactement.
Ah oui, on adore la radio.
Voilà, la radio française internationale. Nous aussi, on aime RFI. À la réalisation et à la mise en onde, il y avait Richard Riffono. Vous pouvez continuer à nous suivre sur RFI.fr ou sur la page Facebook d'Accent d'Europe.